bonjour à chacun. Dimanche dernier, dans notre série sur l'apôtre Pierre, nous avons fait avec Olivier un bond en avant jusqu'à la rencontre de Pierre et Corneille. Et ce matin, nous revenons un peu en arrière, au chapitre 4 du livre des Actes. Là, nous allons retrouver Pierre et Jean en prison tout d'abord, et puis devant le Sanhédrin ensuite. Mais que s'est-il donc passé ? Et je vous invite à lire le récit que nous allons méditer ce matin. Nous sommes dans Actes au chapitre 4 et je vais lire les versets 1 à 22. Actes 4, versets 1 à 22. Tandis qu'il parlait au peuple, les prêtres, le commandant du temple et les sadducéens survinrent, excédés de les voir instruire le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils mirent la main sur eux et les placèrent sous bonne garde jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, leurs chefs ainsi que les anciens et les scribes se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la lignée des grands prêtres. Ils les firent comparaître au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit « Chef du peuple et anciens, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme, et sur la manière dont il a été sauvé, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ le Nazoréen que vous avez crucifié et que Dieu a réveillé d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre que vous, les constructeurs, vous avez méprisée et qui est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. » En voyant l'assurance de Pierre et de Jean, ils étaient étonnés car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout auprès d'eux l'homme guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et délibérèrent entre eux, en disant « Comment allons-nous traiter ces gens ? Il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un signe évident a été accompli par leur entremise. Nous ne pouvons pas le nier. Mais pour que cela ne se répande pas davantage dans le peuple, défendons-leur avec des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Alors ils les appelèrent et leur enjoignirent formellement de ne plus parler ni enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent « Est-il juste au regard de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? À vous d'en juger. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent sans trouver moyen de les punir à cause du peuple. Tous, en effet, glorifiaient Dieu pour ce qui était arrivé, car l'homme qui avait bénéficié de ce signe, de cette guérison, avait plus de 40 ans. Pierre et Jean se sont fait arrêter. Pourquoi ? La réponse nous est donnée au verset 2. C'est parce que les autorités religieuses de l'époque étaient, je cite, « excédées de les voir instruire le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. » Et c'est ainsi que Pierre et Jean se retrouvent placés sous bonne garde jusqu'au lendemain parce que c'était le soir. Ce qui veut dire qu'il n'était plus possible pour le Sanhédrin de se réunir ce jour-là. Il est possible que Pierre et Jean, ce soir-là, se soient souvenus des paroles de Jésus, des paroles que Jésus leur avait dites, des paroles que nous retrouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 21, verset 12, je lis, « Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. » Oui, c'est bien à cause du nom de Jésus que Pierre et Jean se retrouvent sous bonne garde, en prison, et demain devant le Sanhédrin. Luc, qui écrit les Actes des Apôtres, en profite à ce stade pour parler de la croissance de l'Église, au verset 4. Une croissance extraordinaire, puisqu'il est question de beaucoup de conversions, pour arriver au chiffre d'environ 5000 hommes, dit le texte. Le terme grec qui est utilisé ici exclut généralement les femmes et les enfants. Il est donc probable que l'ensemble des croyants, à ce stade, était beaucoup plus nombreux que 5000, que le chiffre de 5000 qui semble ne concerner que les hommes. Souvenons-nous, après le discours du jour de la Pentecôte, il avait été question d'environ 3000 convertis. Ce qui veut dire que depuis ce jour-là, l'Église n'a pas cessé de grandir. Et il faut sans doute comprendre une croissance au jour le jour, plutôt que quelque chose de ponctuel à chaque fois qu'un des apôtres prenait la parole. Les trois groupes qui sont mentionnés dans le texte, les chefs, les anciens et les scribes, nous font comprendre que c'est devant le Sanhédrin que Pierre et Jean comparaissent le lendemain. Le Sanhédrin, vous le savez, c'est l'assemblée législative traditionnelle d'Israël qui faisait aussi office de tribunal suprême. Il était composé de 70 hommes qui étaient présidés par le grand prêtre. Notons que c'est cette même assemblée, ce même Sanhédrin, qui quelques semaines plus tôt, quelques mois plus tôt, a condamné à mort Jésus. C'est pour leur demander des comptes que Pierre et Jean sont amenés devant le Sanhédrin. Verset 7, ils les firent comparaître au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ?» Les autorités religieuses juives étaient excédées par l'enseignement des apôtres au sujet de Jésus. C'est la raison qui est donnée pour l'arrestation, mais il y a plus que cela. Il s'est passé autre chose. Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ? Mais de quoi s'agit-il ? En fait, ce que le Sanhédrin veut savoir, c'est comment ils ont guéri l'infirme qui se trouvait à la porte du temple, appelée la Belle, et dont la nouvelle s'est répandue dans Jérusalem comme une traînée de poudre. Et le récit de cette guérison se trouve au chapitre précédent, au début du chapitre 3. Soulignons ici que d'autres guérisons ont déjà eu lieu, comme on peut le lire dans Acte 2, verset 43, je cite, « La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. » Il est urgent pour le Sanhédrin d'endiguer ce qui est en train de se passer au risque sinon de perdre le contrôle de la situation. Notons que ces autorités religieuses pensaient s'être débarrassés une fois pour toutes de Jésus, en le crucifiant. Mais voilà que ses disciples affirment qu'il est vivant, et en plus, ils font maintenant les miracles que lui faisait aussi. Oui, il est vraiment urgent de s'occuper de cette affaire, car la foule est en train d'adhérer massivement à l'enseignement des apôtres. La question qui leur est posée est donc « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ?» Ce que le Sanhédrin veut savoir, c'est par quelle autorité ils ont accompli ce miracle. La phrase « par quel nom » signifie « par l'autorité de quel nom ». C'est Pierre qui va répondre à cette question. Ça ne nous surprend pas. Avec tout ce que l'on a déjà dit sur sa personnalité, ça ne nous surprend pas que ce soit lui qui prenne la parole. Rappelons brièvement l'incroyable transformation qui s'est opérée en Pierre. Qu'il parle plus vite que tout le monde, c'est une chose. Qu'il le fasse avec courage et assurance en est une autre, surtout après son triple reniement et surtout devant ceux qui ont condamné à mort Jésus. Mais depuis, le Seigneur l'a relevé. Depuis, l'Esprit-Saint lui a été donné. Et c'est d'ailleurs rempli de l'Esprit-Saint, verset 8, que Pierre prend la parole. Si Jésus avait annoncé que ses disciples seraient persécutés et jetés en prison, nous l'avons lu, il leur a fait aussi une promesse. Je relis Luc 21, verset 12, et je poursuis jusqu'au verset 15. « Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Sachez bien que vous n'avez pas à préparer votre défense, car moi je vous donnerai une parole, une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront s'opposer, qu'ils ne pourront contredire. » Et Pierre va expérimenter ce jour-là, ce ne sera pas la seule fois, l'accomplissement de cette parole de Jésus. Nous le constatons dans les paroles qu'il va dire et aussi dans l'expression qui est utilisée au verset 8, « rempli de l'Esprit-Saint ». Dans le livre des Actes, ce verbe « remplir » décrit non pas la venue de l'Esprit au moment de la conversion, mais une plénitude soudaine de l'Esprit qui rend capable d'accomplir une mission, qui rend capable de parler de la part de Dieu. Il s'agit d'une aide particulière de l'Esprit qui est donnée à ce moment-là à l'apôtre Pierre pour pouvoir faire face à la situation donnée. « Sachez bien, disait Jésus à ses disciples, que vous n'avez pas à préparer votre défense, car moi, je vous donnerai une parole, une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront s'opposer, qu'ils ne pourront contredire. » Que dit Pierre, rempli d'Esprit Saint ? Il commence par présenter la guérison du paralytique comme un bienfait. Qui pourrait en douter ? Qui pourrait penser le contraire d'une guérison aussi extraordinaire ? Puis Pierre affirme que c'est par le nom de Jésus, de Jésus-Christ de Nazareth, que le miracle a été accompli. La guérison de l'infirme a été accomplie par l'autorité et la puissance de Jésus, donc de Jésus ressuscité. Et le moins que l'on puisse dire ici, c'est que Pierre ne tourne pas autour du pot. Il va droit à l'essentiel. Verset 10, « Ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a réveillé d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. » Oui, c'est le Christ ressuscité, affirme Pierre, qui a guéri cet infirme. Non, ils n'en ont pas encore terminé avec Jésus. Pierre aurait pu s'arrêter là, mais il continue. Il continue en faisant allusion à un verset du psaume 118, le verset 22. Je lis le verset 11 dans notre texte. « C'est lui, dit Pierre, et c'est ça l'allusion au psaume 118, c'est lui la pierre que vous, les constructeurs, vous avez méprisé et qui est devenue la principale, celle de l'angle. » Pierre fait ici, avec les mots du psaume 118, le lien entre la crucifixion de Jésus, dont ils sont responsables, et cette pierre rejetée par eux, vous les constructeurs, dit Pierre, et qui est devenue la principale de l'angle. En d'autres mots, Pierre leur dit qu'ils ont essayé de se débarrasser de Jésus, mais que néanmoins, Jésus est devenu la pierre principale de l'édifice. De quel édifice ? De celui du peuple de Dieu. Et il faudrait revenir au psaume 118 pour le comprendre. Peuple de Dieu qui est donc comparé ici à un bâtiment dont le roi, ça c'est aussi une allusion avec le psaume 118, dont le roi est la pierre principale, la pierre de l'angle, la pierre principale du peuple de Dieu. Jésus est celui que Dieu a choisi pour être la pierre angulaire, le roi de son peuple, malgré son rejet par ceux qui bâtissaient à cette époque, à savoir les dirigeants du peuple. Et Pierre continue au verset 12, « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. » Je redis ce verset avec la traduction de la Bible du Semeur. « C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. » Chers amis, nous devons respecter tous les hommes et nous devons respecter toutes les religions sur cette terre. Mais les respecter ne doit pas nous empêcher d'affirmer que Jésus est le seul chemin entre Dieu et les hommes, que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, que Jésus est le seul nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Non, le salut ne se trouve en aucun autre. Et la Bible l'affirme à plusieurs reprises. Beaucoup se sont levés et se sont proclamés médiateurs entre Dieu et les hommes. Les religions de cette terre en sont remplies. Mais un seul a été choisi par Dieu, Jésus-Christ, son Fils. Et c'est le Christ rejeté par les autorités religieuses juives et qui a été mis à mort par elles, que Dieu a ressuscité d'entre les morts pour en faire la pierre angulaire de l'édifice, la pierre angulaire de son peuple. Non, il n'y a pas d'autre chemin vers le Père que celui que Jésus a ouvert en donnant sa propre vie. Non, il n'y a pas d'autre roi pour le peuple de Dieu que Jésus, que Dieu a fait Seigneur et Christ, en le ressuscitant des morts, comme Pierre le disait à la fin de sa première prédication. Notons pour finir ce point que le verbe grec « sauver » qui est utilisé au verset 9 et au verset 12 peut aussi se traduire par le verbe « guérir ». Et c'est d'ailleurs pourquoi, et si vous suivez dans vos Bibles, vous avez peut-être constaté la différence, c'est parfois traduit par « sauver » et parfois traduit par « guérir ». Ainsi, la guérison de l'infirme, en plus d'être un bienfait, devient une image du salut. Une image du salut qui lui est accordée. La guérison du corps comme une image de la guérison de l'âme. Après ce que Pierre vient de dire, nous lisons au verset 13 l'étonnement du Sanhédrin. En voyant l'assurance de Pierre et Jean, ils étaient étonnés. Pourquoi ? Non pas par le contenu de ce que Pierre a dit, mais je reprends la lecture, car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Ils sont étonnés parce que Pierre et Jean, ça ne veut pas dire qu'ils sont illettrés, qu'ils sont analphabètes, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu d'instruction théologique à l'école rabbinique. Ils n'ont pas été instruits par les rabbins. Et pourtant, ils connaissent les Écritures. Et pourtant, ils en parlent avec assurance. Ils ont l'assurance des gens qui sont instruits dans les Écritures. Au fait, comme nous l'avons déjà souligné, ils expérimentaient tout simplement le secours de l'Esprit-Saint qui les assistait selon la promesse de Jésus. Et puis, ils avaient été au contact de Jésus, de son enseignement, et cela, le Sanhédrin en est bien conscient. Comme le souligne la fin du verset 13, « Ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. » Non, ils n'en ont pas fini avec Jésus. Les membres du Sanhédrin sont donc perplexes. Ils sont même sans voix d'une certaine manière, car le verset 14, nous lisons au verset 14, « Ils voyaient debout auprès d'eux l'homme guéri, et ils n'avaient rien à répliquer, d'autant que cet homme avait plus de 40 ans. » Alors qu'est-ce que ça vient faire là, ce détail ? Ben, c'est sans doute pour nous dire qu'il était là depuis un long moment à la porte du temple appelé la Belle, depuis 40 ans, sans doute qu'il était infirme de naissance. En tout cas, il était là depuis un long moment, tout le monde le connaissait, et donc personne ne pouvait nier la guérison extraordinaire qui lui avait été accordée. Alors, ils vont faire sortir Pierre et Jean afin de délibérer. Non pas pour savoir si ce que Pierre a dit est juste, mais pour savoir comment faire face à la situation. Il est pourtant manifeste que quelque chose d'important s'est passé. Ils auraient pu se laisser toucher par ce que Pierre a dit. Ils auraient pu se laisser toucher par le miracle incontestable dont ils sont les témoins. Mais leurs préoccupations ne sont pas la vérité, ni la justice, et encore moins la volonté de Dieu. Les seuls intérêts qui les concernent, ce sont les leurs, c'est la mainmise sur les affaires, sur le peuple, sur les finances. Ce dont il est question ici, c'est de garder le pouvoir, tout simplement. Et ce sont déjà toutes ces considérations-là, avec d'autres, qui avaient présidé au jugement de Jésus et à sa condamnation, garder le pouvoir. Et c'est ainsi, pour stopper l'hémorragie, qu'ils arrivent à la conclusion qu'il faut interdire de parler de Jésus en les menaçant. En les menaçant. Verset 17, « Mais pour que cela ne se répande pas davantage dans le peuple, défendons-leur avec des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et après avoir pris cette décision, au verset 18, ils rappellent les apôtres et leur enjoignent formellement de ne plus parler ni enseigner au nom de Jésus. Ils ne pouvaient pas faire beaucoup plus à ce stade-là. Pierre et Jean n'avaient enfreint aucune loi. Alors très bien, l'affaire est close, terminée, la sentence est levée, affaire suivante. En fait, pas du tout. Et Pierre reprend la parole. Il demande à leur juge de juger. C'est leur rôle, c'est un tribunal. Verset 19, Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste au regard de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? À vous d'en juger. Ben » Vous êtes là pour ça. À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. La réplique de Pierre est simple. Nous ne pouvons pas ne pas témoigner de ceux dont nous avons été les témoins. Ce que nous avons vu et entendu, le faire ne serait pas juste devant Dieu, puisque nous en sommes témoins. Et c'est pourquoi Pierre dit implicitement, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. J'aimerais ici dire quelques mots concernant notre rapport aux autorités. Quel doit-il être ? Et je vais lire pour cela le texte qui est sans doute le plus clair, celui que Paul écrira quelque temps plus tard dans sa lettre aux Romains, au début du chapitre 13. Je lis les versets 1 à 7. C'est dans un autre contexte, bien évidemment, mais On ne va pas tout expliquer, mais on va déjà le lire. Que chacun soit soumis aux autorités établies, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre de Dieu. Ceux qui s'opposent attireront un jugement sur eux-mêmes. Les chefs, en effet, ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte l'épée. Elle est en effet au service de Dieu pour faire justice, pour la colère contre celui qui pratique le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les gouvernants sont attachés au service de Dieu pour cette fonction même. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Le principe général de ce texte, et du verset 1 en particulier, c'est que nous devons nous soumettre aux autorités que Dieu a instituées pour notre bien. Cette soumission se traduit bien sûr par notre obéissance. C'est d'ailleurs, dit Paul, même un devoir de conscience, parce que les autorités sont les ministres de la justice divine. Et à ce sujet, le chrétien n'a aucun passe-droit, aucun. C'est vrai qu'il est citoyen des cieux, mais il est ici-bas avant tout un citoyen d'ici-bas, avec le devoir de se soumettre aux autorités. Qu'en est-il de la situation de notre texte ? En fait, il arrive parfois que les intérêts de l'État, les intérêts de l'autorité s'opposent à ceux de Dieu, à sa volonté. Et c'est clairement le cas dans notre texte. Interdire aux apôtres d'accomplir la mission que Jésus leur avait confiée est de cet ordre-là. Et dans ce cas-là, il y a un autre principe qui va supplanter celui que nous venons de mentionner, celui de la soumission aux autorités, c'est le principe de l'obéissance à Dieu, tout simplement. Alors comme Pierre le dit au verset 19, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est cela qui est juste. L'obéissance à Dieu se tient toujours au-dessus de tout gouvernement et de toute religion, quand il faut choisir. Après la réplique de Pierre, il est fort possible que le Sanhédrin n'en soit pas resté là s'il n'y avait pas eu le peuple. En effet, le texte précise au verset 21 qu'ils n'ont pas trouvé moyen de les punir à cause du peuple, car celui-ci glorifiait Dieu pour ce qui était arrivé. Et c'est ainsi qu'après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. Je termine. Et je termine avec ce que Pierre et Jean ont fait ensuite. Et je lis pour cela les versets 23 à 25, donc à la suite de notre texte, et puis je saute au verset 29 à 31. Après avoir été relâchés, ils vinrent raconter aux leurs tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu cela, tous d'un commun accord élevèrent la voix vers Dieu et dirent « Maître, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer, ainsi que tout ce qui s'y trouve, c'est toi, je saute au verset 29. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes esclaves de dire ta parole avec une entière assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Qu'ont fait Pierre et Jean ensuite ? Ils sont allés trouver les autres disciples, ils leur ont raconté ce qui s'est passé et ils ont prié, tout simplement. Verset 24, lorsqu'ils eurent entendu cela, tous, d'un commun accord, élevèrent la voix vers Dieu. Ils se sont mis à prier. Et quand il dit à Dieu, et je passe directement au verset 29 et 30, la fin de la prière, c'est ce qui a retenu mon attention, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes esclaves ou à tes serviteurs de dire ta parole avec une entière assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Les disciples prennent au sérieux les menaces qui ont été proférées contre Pierre et Jean. Elles viennent quand même de ceux qui ont condamné et mis à mort Jésus. Mais ils savent néanmoins que Dieu est au-dessus de tout et au-dessus de tous. Conscients qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, ils demandent alors à Dieu de leur donner, de dire sa parole avec une entière assurance, malgré les menaces, et d'étendre sa main pour que se produisent des guérisons, etc. J'aime beaucoup cette prière. J'aime beaucoup ce réalisme. J'aime cette démarche dans l'adversité. J'aime cette dépendance à Dieu. J'aime cet exemple qui, je l'espère, nous inspire. Les disciples auraient pu réagir d'une toute autre manière. Ils auraient pu prendre peur. Ils auraient pu se cacher à nouveau. Ils auraient pu se taire. Les menaces étaient sérieuses. On l'a déjà dit, Jésus a été mis à mort par eux. Étienne le sera, 2 chapitres plus loin. Très prochainement, les menaces sont sérieuses. Mais il n'oublie pas que c'est Dieu qui est souverain. Qu'il tient toute chose dans sa main, qu'il peut faire incliner le cœur des puissants, si telle est sa volonté, qu'il accomplit toujours sa volonté, qu'il donne ce qu'il ordonne, et que s'il a ordonné aux disciples de témoigner, il présidera à toute chose pour qu'il puisse le faire. Et les conséquences lui appartiennent. Chers frères et sœurs, nous vivons dans un pays où nous ne sommes pas persécutés pour notre foi. Je le dis parce que vous le savez, beaucoup de pays sur cette terre sont dans cette situation et nos frères et sœurs n'ont pas la liberté que nous avons, n'ont pas la liberté de se réunir, n'ont pas la liberté de parler ouvertement à leurs voisins, à leurs collègues, aux membres de leur famille, de ce que Jésus a fait dans leur vie. Et s'ils le font, ils le font au risque de leur propre vie, très souvent. Nous vivons dans un pays où nous avons la liberté de témoigner de notre foi. Mais malgré cette liberté, nous pouvons parfois avoir peur de le faire. Nous pouvons parfois être intimidés pour toutes sortes de raisons, certaines légitimes, d'autres peut-être moins. Que faisons-nous alors? Nous pouvons aussi réagir de toutes sortes de manières. Nous pouvons aussi nous taire, nous cacher, trouver toutes sortes de subterfuges. Ou alors nous pouvons, à l'instar de cette prière des disciples dans notre texte, demander à Dieu de nous donner de dire sa parole avec une entière assurance. Demander à Dieu de nous donner de dire sa parole avec une entière assurance. Avec une entière assurance, et j'ajouterai avec sagesse aussi, avoir l'assurance ne nous dispense pas de faire les choses de la bonne manière. Toujours avec sagesse. Que le Seigneur nous fasse la grâce, cette grâce d'être des témoins qui parlent de son amour, qui parlent des bienfaits qu'il nous a accordés, qu'il parle de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. qui se trouve dans le Christ ressuscité et qu'il nous accorde de le faire avec une pleine assurance et avec sagesse, en comptant sur lui et pour sa gloire. Amen. Prenons quelques instants de silence.